Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, eh bien, on part de nouveau sur un épisode interview et pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu de NutraStream. C'est sûrement quelqu'un, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez de toute façon croisé à maintes reprises parce que c'est un biologiste qui est spécialisé en santé naturelle. Et puis aujourd'hui, on va faire un épisode où il va nous partager tout son savoir pour savoir comment optimiser notre santé physique et surtout mentale, notamment au travers de compléments et probablement d'autres astuces. Mathieu, merci d'avoir accepté mon invitation et puis bienvenue.
Merci beaucoup, Julien. Bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que tu peux peut-être te présenter, en fait, quel est ton parcours, qui tu es?
Oui.
Pour commencer cet épisode.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis donc Mathieu. J'ai créé un média interactif NutraStream. Mais avant tout, mon principal métier déjà depuis au moins plus de 15 ans, c'est de développer des produits depuis l'idée jusqu'à la commercialisation. Donc, des produits, on va dire, de santé naturelle, par exemple les compléments alimentaires, les huiles essentielles, donc l'aromathérapie, les dispositifs médicaux et les produits cosmétiques. Un tout petit peu de médicaments à base de plantes, mais globalement, c'est mon métier. En parallèle, sur mon temps personnel, avant NutraStream en tout cas, j'ai toujours à cœur de transmettre ce que je sais pour aider les gens en fait dans leur santé au travers de formations auprès des pharmaciens, des médecins, notamment dans les DU dédiés, dans des sociétés savantes et également dans des organismes de formation. Et en parallèle, je suis auteur scientifique, donc je rédige quelques articles à ce sujet. Et depuis 2 ans, j'ai créé justement un média pour transmettre ces informations directement auprès, on va dire, du grand public, parce que j'estime qu'il faut avoir ces informations-là parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour avoir une santé au top et de manière autonome. Et donc, j'ai créé ce média NutraStream et tous les conseils que j'ai donnés autour de moi et qui ont fonctionné, eh bien, je les donne au plus grand nombre à travers les réseaux sociaux.
Alors, c'est intéressant toujours de savoir, moi, j'aime bien savoir les déclics qui ont déclenché, en fait, ce genre de décision. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, mais en fait, tout ce savoir que j'ai envie de pouvoir le partager à un plus grand nombre. Et puis, surtout, je vais faire l'effort pour le faire parce que tu es extrêmement présent sur Internet. Tu publies beaucoup de contenu, donc ça demande un gros investissement. C'était quoi qui a été le déclic pour toi?
En fait, c'est de voir mon entourage qui allait de mieux en mieux. Au départ, on le fait toujours dans un entourage proche, c'est-à-dire les amis proches, la famille. Et en fait, à chaque fois, on me dit, oui, je dors mieux, j'ai moins de bouffées de chaleur. Et à un moment donné, si tu veux, quand tu reçois de plus en plus, en fait, de sollicitations de la part même de personnes que tu ne connais pas, parfois, je recevais des SMS de personnes qui me disaient, tiens, t'as aidé telle personne pour son sommeil, son stress, est-ce que tu aurais quelques tips, quelques astuces à me communiquer? Et en fait, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que les gens veulent prendre en main leur santé, mais sont un petit peu perdus, soit dans les informations, parce qu'il y a trop d'informations, il y a parfois de la désinformation. Et puis enfin, il y a aussi une méconnaissance sur les produits de santé naturelle, y compris auprès des pros, puisque j'en forme régulièrement, sauf cette année, parce que NutraStream a pris beaucoup de place dans ma vie. On en rediscutera sûrement. Et donc, je me suis dit, la meilleure solution pour dispenser ces conseils, ce sont les réseaux sociaux, parce que c'est une grande chance pour nous, en tout cas, de dispenser ça assez rapidement, de manière ludique. Et donc, c'est ce que je fais au quotidien. Et oui, ça prend beaucoup de temps, effectivement.
Et donc là, actuellement, tu es encore en train de travailler dans la fabrication de ces produits naturels ou c'est quelque chose qui est derrière toi maintenant?
Ah non, c'est toujours mon métier actuellement. J'en vis, c'est ce qui paye mon loyer. Aujourd'hui, je développe toujours des produits. Alors, ce n'est pas de la fabrication, c'est ce qu'on appelle de la conception. Donc, en fait, je vais en gros réfléchir à la ligne directrice pour le développement des futurs produits. Je vais communiquer la formule, ce qui va ensemble, à quel moment de la journée, quelle quantité, les bonnes formes, éviter certains additifs, etc. Je vais rédiger la formule et ensuite le laboratoire va développer la formule selon ma ligne directrice. Et puis le projet peut prendre entre 3 mois à 12 mois, par exemple, selon la complexité du produit.
Et ça, tu le fais au sein d'un seul labo ou tu travailles pour plusieurs labos en même temps?
Aujourd'hui, je travaille pour plusieurs laboratoires, en fait, puisque je suis freelance déjà depuis 2 ans. Puisqu'avant, c'est vrai que j'étais dans les laboratoires en tant que salarié. Et aujourd'hui, juste avant NutraStream, en fait, j'ai décidé de le faire de manière en tant que freelance, en consultant.
OK. Je ne savais même pas qu'on pouvait être freelance dans ce genre de domaine. Mais c'est hyper intéressant et ça ne m'étonne pas parce que, justement, dans ton contenu, tu parles beaucoup de ces produits. On pourrait s'attendre à ce qu'à la fin de chaque vidéo, il y ait un code promo pour tel produit de telle marque. Et c'est quelque chose où, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, je n'ai pas l'impression que tu le fais.
Je ne fais pas de publicité aujourd'hui, je ne fais pas de collaboration aujourd'hui. C'est néanmoins une demande très forte de la part de ma communauté, en tout cas, ou des personnes aussi qui voient mes vidéos comme ça une seule fois par hasard sur Instagram ou sur TikTok ou encore sur YouTube. Donc aujourd'hui, je ne propose pas de partenariat. Ça prend, en fait, ce que les gens ignorent, c'est que c'est mon métier. Donc si je mets un produit en avant, il faut que j'étudie la formule, mais aussi comment il est fabriqué. Et en plus, il y a aussi des valeurs. Pour moi, les valeurs de l'entreprise sont très importantes, de voir un peu comment c'est fabriqué, de voir si les gens sont heureux de travailler dans l'entreprise. Et donc, comme ça prend beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, bah, j'ai déjà un travail à côté, eh bah, je me limite à dispenser, en tous les cas pour le moment, des conseils, on va dire, gratuits pour la communauté.
Et ça, je trouve que bah, au-delà de ton parcours et du fait que bah, tu sois vraiment au sein même de ces laboratoires, finalement, ce qui donne déjà vraiment confiance, le fait justement qu'il n'y ait pas de parti pris par rapport à ça. C'est aussi quelque chose que je trouve qui met beaucoup en confiance par rapport à beaucoup de choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Alors, je critique pas le fait de vendre certains types de produits parce que pourquoi pas vendre quelque chose qui est de qualité, mais par contre, ben, ça évite de se dire, ah ben là, il y a des conflits d'intérêts.
Exactement, c'est aussi ça l'objectif. La deuxième piste aussi, c'est de se dire, OK, même si, imaginons demain, je dis, voilà, c'est vrai que ce produit-là, c'est quand même compliqué à trouver, parce que c'est vrai qu'il y a des plantes, par exemple, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer et vulgariser, c'est pas simple hein, pour beaucoup, et c'est normal. Mais au moins, on apprend à lire, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on nous enlève notre intelligence. Et ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je travaille à travers mes contenus. C'est-à-dire que avant, il y a Google qui nous enlève un petit peu, finalement, les moteurs de recherche, on va dire, nous enlèvent notre capacité de mémorisation. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'enregistrer un numéro de téléphone. Dans notre tête, on l'a dans notre téléphone. On demande à Google une recette, etc. On se dit, ah, je ne sais plus combien de grammes de poulet ou j'en sais rien dans la recette. On a les réseaux sociaux qui nous poussent parfois du contenu qu'on n'a pas forcément cherché ou demandé. Et maintenant, on a l'intelligence artificielle qui va réfléchir à notre place. Et ça, c'est quelque chose que je refuse totalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si, pourquoi pas un jour faire quelque chose, mais ce n'est pas prévu, au moins, ils arrivent en fait à comprendre un petit peu comment sont faits les produits. Ce sont des produits qu'on avale, ce sont des produits de santé. Donc, il faut comprendre un petit peu comment ils sont structurés, c'est important. Et c'est ça aussi l'objectif.
D'ailleurs, tu parles de santé naturelle. C'est quoi finalement que tu entends par là? C'est quoi la base pour être en bonne santé naturellement?
Alors là, il y a deux questions. La première, c'est la santé naturelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est totalement galvaudé. Alors, c'est quoi la santé naturelle finalement? Qu'est-ce qui est naturel ou non? Je prends l'exemple des huiles essentielles. Tout le monde pense que c'est naturel, mais ce n'est pas naturel du tout. Ça n'existe pas à l'état naturel dans la nature. Ce sont des essences qui ont été modifiées. Alors modifiées, on va dire, avec de l'eau, de la chaleur, mais ça reste une modification de toute façon, parce que ça n'existe pas. Donc on peut dire d'origine naturelle et encore. Mais la santé naturelle, en tous les cas, ma vision des choses, c'est que ça repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est évidemment d'utiliser des choses, on va dire, des remèdes, entre guillemets, naturels ou d'origine naturelle. Donc, ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être comme, par exemple, du magnésium, qui est assez connu et très important pour gérer la santé psy, justement. Mais ça peut être aussi l'utilisation de la méditation ou de l'EMDR ou de l'hypnose, par exemple. Donc, en fait, ce sont des techniques qui sont, entre guillemets, qui ne font pas appel ou très peu à ce qui peut être, on va dire, d'origine synthétique. Voilà, c'est vraiment le terme pour moi exact parce que tout est chimique dans la nature. L'eau, H2O, c'est chimique. Une fraise a 200 éléments chimiques en elle. Donc, il faut vraiment se dire, OK, c'est plutôt le terme synthétique qu'il faut opposer ici. Donc, premier point, c'est d'utiliser, on va dire, le maximum de choses naturelles ou d'origine naturelle pour nous aider, en fait, au quotidien. La deuxième chose, je dirais, c'est de prendre en charge l'individu dans son ensemble. C'est vrai que pendant très longtemps, y compris d'ailleurs dans la médecine, on se dit, OK, tu as mal au ventre, tu as des reflux acides, donc par exemple, il y a des IPP, des antiacides, etc. Mais s'il y a un problème dans l'estomac, c'est peut-être un problème au niveau de la thyroïde, juste au-dessus, qui entraîne des manques d'acidité dans l'estomac, par exemple. Ça peut être un stress, donc ça peut être au niveau du cerveau, ça peut être au niveau des neurotransmetteurs, etc. Donc la santé naturelle, pour moi aussi, englobe, on va dire, la santé de l'individu, on va dire, une santé plus intégrative. Et la troisième chose dans santé naturelle, pour moi en tout cas, c'est aussi l'aspect physiologique, de respecter un minimum notre génétique. Aujourd'hui, on évolue avec la société. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont un petit peu à l'encontre de notre biologie. Par exemple, les écrans Le soir, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir. Alors moi, je ne suis pas, bien sûr, déconnecté de notre siècle. Il faut quand même vivre à l'instant présent, évidemment, et de ne pas être contre l'évolution de la société. Mais il y a des astuces comme ça. Par exemple, le matin très tôt, ne pas regarder son téléphone, c'est très délétère pour la journée. Et le regarder vraiment dans la journée, des petites sessions. Ça, pour moi, voilà, c'est de respecter notre physiologie, finalement, des choses assez naturelles. Mais on s'éloigne de plus en plus de cet aspect physiologique. Et pour moi, c'est ça. La santé naturelle, c'est trois piliers. Et donc, ta deuxième question, Julien, c'était...
Bah, alors déjà, je vais rebondir parce que c'est là où on voit ben, toute la complexité finalement et toutes les variables qui sont en jeu pour pouvoir être en bonne santé. Il y a ben, évidemment ce qu'on mange, ce qu'on ingurgite, mais il y a notre mode de vie aussi qui fait grandement. Et je trouve intéressante ta dernière remarque par rapport à respecter notre physiologie. La société dans laquelle on vit, une société capitaliste, a tendance à vouloir repousser les limites de notre physiologie, à nous imposer en fait des choses qui vont complètement à l'encontre de ça. Alors, c'est des fois, je pense, ou même très souvent, la tension dans laquelle on se retrouve, de devoir vivre avec comment on est fait dans une société qui nous demande d'être autrement. Donc ça, déjà, je trouve passionnant. Et puis, on pourrait après dévier dans 50 sujets. Mais la deuxième question, c'était... Pour toi, c'est quoi la base si on cherche à simplifier la chose, par quoi on doit commencer pour être en bonne santé naturellement?
La première chose, et c'est valable pour tout le monde, c'est les trois piliers de base qui sont irremplaçables. C'est évidemment une alimentation variée et équilibrée, même si on peut se faire plaisir, bien sûr, de temps en temps, et c'est très important aussi. Le sommeil aussi, important également à vraiment prendre soin de son sommeil. Alors, ce n'est pas facile pour tout le monde, c'est vrai, mais il y a des petites astuces comme ça pour prendre soin de soi et de prendre soin de son sommeil. Et puis enfin, l'activité physique. Et quand je parle d'activité physique, ce n'est pas que le sport. Attention, il y a des personnes qui sont assises toute la journée parce qu'ils travaillent dans un bureau, ils font du sport entre midi et deux, ils font 1 heure de sport et c'est très bien. Mais si toute la journée on reste assis, ça reste de la sédentarité également. Donc il faut travailler également, bouger, faire de l'activité physique, etc. Pour moi, ça, c'est des piliers de base pour tout le monde. Et ensuite, dans tout ce qui peut aider au-dessus, justement, pour moi, le plus important, et c'est pour ça en fait que je fais des contenus à ce sujet, ce sont les ingrédients de santé naturelle, les produits de santé naturelle, comme le magnésium, la vitamine D, etc. Parce qu'on peut avoir par exemple un état dépressif, ou on peut avoir une thyroïde qui fonctionne mal, on peut être fatigué simplement parce qu'on manque par exemple de magnésium, de vitamine D, et les carences sont de plus en plus importantes justement. Et pour moi, ce sont des produits les plus importants et qui s'inscrivent dans cette démarche de prévention santé. Et ensuite, on retrouve d'autres techniques, méditation, yoga, respiration, cohérence cardiaque, etc. Mais pour moi, les produits de santé naturelle sont indissociables. L'être humain, d'ailleurs, bien avant une alimentation qu'on a aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'aliments hein, aujourd'hui, mais bien avant, on utilisait déjà des plantes hein, pour nous stimuler, pour beaucoup de choses. Et donc, ces plantes-là, aujourd'hui, on les retrouve donc soit en infusion, par exemple, soit via des gélules, des comprimés, via des produits de santé naturelle.
Ça paraît toujours simple comme ça. On se dit, ah ouais, ah oui, je sais l'activité physique, ouais, le sommeil, ouais, la nutrition. Mais en fait, c'est quelque chose. Moi, j'ai l'impression, dans ce que je vois dans mon cabinet, que c'est quelque chose qui est totalement négligé, alors que c'est la base de la santé physique et mentale. Et j'ai l'impression peut-être un écueil qu'on a, c'est de passer, en fait, à l'échelon supérieur, à vouloir justement en fait, quel complément je dois prendre avant même de se demander à la base de quoi je me nourris avant de chercher à me complémenter. Et ça m'amène à la prochaine question, c'est en fait, à quel moment on sait ou on peut détecter que là, mon style de vie, ça ne suffit pas, même peut-être si je fais attention à ça, et que je dois aller chercher des compléments pour vraiment me fortifier.
Alors ici, il y a deux choses qui sont, je pense, importantes à rappeler. Peut-être c'est, et ça va répondre à ta question dans un second temps, c'est quoi un complément alimentaire finalement? Parce que ça, c'est une erreur que je vois, y compris auprès des professionnels de santé, quand je dispense mes interventions. Aujourd'hui, on me dit, mais quand on a une alimentation variée et équilibrée, il n'est pas nécessaire de se supplémenter. Et ça, c'est une erreur, en fait, que je corrige très souvent, justement, sur les réseaux sociaux. En fait, on oublie, c'est sûrement le terme complément alimentaire qui ne va pas ici. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi le terme ingrédients de santé naturelle et produits de santé naturelle. C'est que, je vais donner un exemple tout bête. Imagine, tu as un entretien dans 2 semaines, un poste vraiment que tu, voilà, que tu recherches depuis très longtemps, tu es au chômage ou non, tu es hyper excité, tu veux ce poste-là. Donc, tu vas peut-être avoir des problèmes de sommeil au départ et c'est normal et c'est sain parce que voilà, tu réfléchis, etc. Le cerveau fait un petit peu le tri. Il y a peut-être ce côté stress, anxiété. Moi, par exemple, ça serait l'inverse. Ça serait plutôt l'excitation. Donc, j'aurais beaucoup de mal à dormir. Donc, ici, justement, les produits de santé naturelle peuvent aider. On peut avoir une alimentation variée, équilibrée, mais ça changerait en fait sur l'impact de cet entretien sur le stress, sur le sommeil. Et justement, si on prend soin de son sommeil assez tôt, on évite dans un second temps de tomber dans la maladie. Parce que moi, je ne gère pas les maladies, ce sont les médecins qui vont gérer ici. Moi, je suis plutôt en prévention ou lorsqu'il y a des inconforts physiologiques. Et justement, le complément alimentaire a deux rôles. Il y a un rôle nutritionnel, c'est-à-dire qu'il va combler des carences supposées ou avérées. Donc, par exemple, je ne mange pas assez de fruits et légumes, mais ça reste quand même la priorité, l'alimentation. Je suis végane. Les régimes, les seniors, par exemple, pendant la période de grossesse, les sportives et les sportifs, etc. Donc là, effectivement, il y a un rôle purement, entre guillemets, nutritionnel, mais il y a aussi ce deuxième rôle qu'on retrouve dans la définition du complément alimentaire. Hein. C'est dans sa définition européenne et française, hein, c'est le décret 2006 pour les personnes qui veulent regarder, ou la directive 2002 sur les compléments alimentaires au niveau européen, et répond à un besoin physiologique. Et donc, c'est quoi ce besoin physiologique? C'est, par exemple, d'aider, on va dire, les petits bobos du quotidien, les petits inconforts digestifs. Un ballonnement n'est pas forcément une maladie. Un problème de sommeil n'est pas forcément une maladie. La ménopause, l'andropause, ce n'est pas des maladies. L'hypertrophie bénigne de la prostate ne sont pas des maladies. Mais si ce n'est pas réglé, ça peut aboutir à une maladie. Des personnes qui se lèvent toute la nuit pour aller uriner parce qu'il y a une prostate qui grossit un petit peu et qui pousse contre la vessie, à un moment donné, il y a une apparition d'insomnie chronique et donc de dépression. Et c'est là où ils sont intéressants, ces produits-là. Ils vont aussi diminuer les facteurs de risque de maladie. Donc, c'est là où ils se situent. C'est parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire, OK, la santé, c'est blanc ou noir. Mais non, en fait, il y a du gris. Il y a cette zone, en fait, d'inconfort physiologique où on se dit, OK, on a un problème de thyroïde, mais on n'a pas d'Hashimoto, on n'a pas une maladie auto-immune et il faut régler ce problème-là. Et c'est là, en fait, où les compléments alimentaires entrent en jeu. Donc, pour répondre à ta question sur quand est-ce qu'on prend des compléments alimentaires, pour moi, en fait, c'est tout le temps. L'objectif, ce n'est pas d'en prendre tous les jours, évidemment, c'est de faire des cures. L'objectif, c'est de ne pas prendre tous les compléments alimentaires du monde, mais il y a des basiques, en fait, comme simplement un multivitamine et minéraux, déjà, c'est plutôt pas mal de faire une petite cure de 3 mois de temps en temps. Donc, on peut être en bonne santé pour se maintenir en bonne santé et faire de la prévention. Là, on retrouve les ingrédients de santé naturelle, donc les compléments alimentaires, entre autres. Dans les inconforts physiologiques, on retrouve également les compléments alimentaires, par exemple, les petits problèmes de sommeil, la fatigue, on se sent un petit peu fatigué, on veut un petit peu avoir un fonctionnement normal du système immunitaire. Donc, on a, par exemple, la vitamine D, etc. Et puis, la partie maladie, donc là, je ne la gère pas, ce sont les médecins. Mais les médecins peuvent recommander des compléments alimentaires ici, en parallèle ou non de l'allopathie, donc en parallèle, on va dire, des traitements de médicaments, par exemple. On a vu dans des études que, alors c'est un petit peu observationnel, mais ça reste quand même intéressant, que des psychiatres aujourd'hui recommandent des oméga-3, donc DHA et EPA d'origine marine, en même temps qu'un traitement antidépresseur, parce qu'on a vu qu'il y avait une meilleure réponse avec ces traitements-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le complément, il est partout présent, et c'est pour ça justement que j'ai choisi d'en parler sur les réseaux sociaux, que j'ai pas choisi de parler de skincare, même si j'en parle un petit peu, des cosmétiques, etc. Parce que pour moi, ils sont très importants dans une démarche de prévention santé.
Alors, je me penche pour sortir ce bouquin qui est à portée de main, qui s'appelle The Depression Cure. Je sais pas si tu l'as lu.
Pas celui-ci.
L'auteur, c'est Stephen S. Ilardi. Je te le recommande si tu veux creuser la question de la dépression, mais justement, il parle de comment traiter la dépression de manière, au travers du changement de style de vie. Donc, il parle évidemment de l'activité physique, du sommeil, et de l'activité sociale. Et puis, au niveau de l'alimentation, lui, il axe énormément justement sur des doses assez élevées d'oméga 3 avec d'autres choses. Je crois qu'il y a de l'huile d'onagre, de la vitamine D et puis vitamine C, sauf erreur. Mais c'est hyper intéressant. Puis oui, il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus et qui sont pas du tout assez prises en compte, je pense, par le monde médical, encore moins par le monde des psys. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment qu'on creuse. D'ailleurs, moi, je me suis inscrit pour la fin de l'année à une formation en nutrition parce
Top.
que de plus en plus, je me dis, je ne peux pas passer en fait à côté de ces aspects-là. Et tu disais qu'on avait tendance à ne pas voir la santé de manière assez globale. Et je pense que pour les psys, c'est peut-être plus caricatural encore de croire que tous nos problèmes psy viennent juste de notre manière de penser. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent venir de ça, mais il y a aussi tout ce qui peut venir du corps. Et puis ça, bah, moi, je te remercie parce que tu fais partie aussi de ma remise en question actuelle. Parce qu'à force de voir un peu ce que tu postes, eh ben, ça me fait tester des trucs dans mon cabinet et puis aussi avoir des résultats qui sont intéressants. Donc,
Bah, je suis ravi en tout cas. Rien que le magnésium, par exemple, c'est tout bête. Hein, mais... Alors, prenez pas de magnésium marin. Pour les personnes qui ne connaissent pas NutraStream, n'hésitez pas, j'ai pas mal de contenu. Je parle des différentes formes et à quel moment il faut les prendre pour maximiser leurs bénéfices. Mais c'est sûr que le magnésium, par exemple, est très important. Et je ferai une vidéo d'ailleurs avec un psychiatre, c'est prévu, sur justement la baisse de morale et de se dire, bah, en fait, parfois, c'est juste une déficience. Hein, ou alors, il y a l'aspect physiologique. Je suis pas, moi, par exemple, personnellement, je ne suis pas en manque de zinc. J'en prends quand même, justement, pour aider, parce que je sais que ça peut diminuer un petit peu le stress. Moi, c'est vrai que je ne suis pas trop stressé. Ça peut aider pour les cheveux, par exemple, etc. Même si j'en manque pas. Donc ça, c'est l'aspect physiologique, justement. Et c'est vrai que pour le côté psy, il y a pas mal d'études. Et ce qui est surprenant, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est hyper intéressant, c'est de se dire, bah, les pros ne tiennent pas en compte finalement ces produits-là. Parfois, il y a une méconnaissance, justement, et je le vois très souvent, j'en ai formé pas mal, mais surtout, souvent on me dit, il y a des conflits d'intérêts. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, justement, dans les oméga-3 notamment, il y a énormément d'études qui sont hors conflit d'intérêts. Mais quand on parle des médicaments, qui sont quand même utiles, hein, heureusement qu'on en a des médicaments, mais ils sont tous, dans ces cas-là, avec conflit d'intérêts. Jamais, par exemple, un laboratoire X va faire une étude sur la molécule développée par le laboratoire Y. Si moi, demain, je développe un complexe de plantes incroyable, c'est pas prévu hein, pour ma communauté, heureusement que je vais être commanditaire d'une étude clinique. Mais après, quand elle est publiée, de toute façon, il y a une méthodologie indépendante et il y a des vérifications qui sont faites par les éditeurs, etc. Donc, alors que dans ces études, par exemple, même le collagène sur la beauté de la peau, etc., on a énormément d'études quand même qui sont hors conflit d'intérêt. Donc, elles sont quand même très intéressantes. Rien que le collagène pour la beauté de la peau, on a des études qui le montrent et qui sont hors conflit d'intérêt. Ce n'est pas le laboratoire qui a commandé, on va dire, cette étude. Donc, et c'est là où il faut aussi se dire, ah oui, ok, on a quand même des études intéressantes. Et attention aux études aussi, je le dis très souvent. Par exemple, les pruneaux pour lutter contre la constipation, personne ne va s'embêter à faire une étude à 300 000 euros pour prouver que ça permet de lutter contre la constipation. Ça appartient à tout le monde. Le but d'une étude derrière, c'est quand même de la rentabiliser. Ça coûte de l'argent pour les laboratoires et c'est normal. Donc, il y a des plantes aujourd'hui qui sont top, mais qui sont prouvées via une tradition, c'est-à-dire utilisées depuis des millénaires par la population. Donc, on a quand même un recul assez bien, assez intéressant, je dirais, sur le côté efficacité et aussi sécurité. Donc, il y a les études, certes, mais il y a aussi des choses, des plantes où on n'a pas forcément d'études. Je connais une psychiatre, par exemple, qui recommande des plantes dans ses démarches, on va dire, que ce soit la shwagandha, la rhodiola. Alors, la shwagandha, on a pas mal d'études, le safran, etc.
Oui, puis alors, en effet, hein, si on commence à s'intéresser aux conflits d'intérêts par rapport aux médicaments, alors on va pas trop s'étendre, ça va m'éviter des soucis avec les pharmas, mais bah, rien que les antidépresseurs, si on va fouiller dans les études, enfin, y a même pas besoin de fouiller, en fait, il y a des ouvrages qui ont été publiés sur pourquoi est-ce que la plupart des études sont complètement biaisées. Bah, après, on rentre dans des domaines et des conflits d'intérêts à d'autres niveaux. Maintenant, ce n'est pas pour jeter la pierre aux professionnels, parce que bah, chacun déjà dans son domaine, si je prends moi dans la psychologie, y a déjà, c'est un champ infini de choses à apprendre. Donc, c'est clair, en soi, on devrait tous être psy, médecin, nutritionniste, et je ne sais pas quoi encore. Donc, mais peut-être ce qu'il faut améliore, c'est déjà cette ouverture d'esprit et de savoir que on n'est pas obligé de maîtriser toutes ces choses, mais essayer de travailler en réseau si c'est possible et être conscient que voilà, c'est pas que sur un organe qu'on se concentre.
Exactement. Il faut prendre l'individu dans son ensemble, d'où la santé intégrative, la santé naturelle, et on le voit de plus en plus auprès des professionnels de santé, donc ça, c'est top.
Alors, ben, puisqu'on parle de compléments alimentaires, peut-être je te propose qu'on aille un petit peu plus en détail dans quel type de compléments peuvent être intéressants pour différentes problématiques. Alors essentiellement, de santé mentale, mais à nouveau, bah, comme on le prend, on vient de le dire, on va prendre ça dans l'ensemble. Donc finalement, le physique est lié au mental. Je pense que c'est important de préciser qu'évidemment, tout ce qui va être dit là, il ne faut pas le prendre comme une prescription, parce que ben, chacun, c'est bien d'aller checker avec son médecin pour voir, même si la plupart de ces compléments, ils peuvent être pris sans ordonnance, mais de savoir, voilà, est-ce que c'est OK que je prenne ces choses-là? Donc, c'est l'idée plutôt d'ouvrir l'esprit et peut-être donner des idées à certaines personnes. Mais voilà, petit disclaimer
oui, tout à fait,
avant de
tu as bien
commencer.
raison. Exactement. Et n'hésitez pas aussi à en parler au pharmacien. Il peut vous aider dans l'accompagnement également sur les compléments alimentaires.
On pourrait commencer, par exemple, bah, ce que je vois le plus au quotidien, c'est des problématiques soit liées au stress, soit à l'anxiété. Parfois, bah, les deux sont aussi liés. Ou, par contre, on peut commencer à attaquer ça.
Alors, dans les parties, on va dire, produits de santé naturelle, il y en a quand même pas mal. Je parlais à peu près de ceux qui fonctionnent le mieux, à mon sens. Et je ne rentrais peut-être pas dans les détails, on va dire, purement scientifiques. Par exemple, on ne pense pas à les vitamines B. Les vitamines B, par exemple, elles jouent un rôle, elles vont contribuer à des fonctions psychologiques normales. Quand on parle des fonctions psychologiques, c'est par exemple le stress, l'humeur et justement le sommeil. Et là, c'est juste un exemple, mais je vais éviter de le faire pour d'autres, on va dire, ingrédients, mais ça fonctionne un petit peu de la même façon. Un manque de vitamine B, surtout le B6, B9 et B12, mais elles sont toutes intéressantes, en fait, va perturber le cycle de méthylation et donc va augmenter les niveaux d'homocystéine. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça va perturber l'équilibre des neurotransmetteurs. Et rapidement, les neurotransmetteurs, c'est quoi? On va dire, c'est une sorte de véhicule dans votre corps qui passe de neurone en neurone et qui soit calme un neurone, soit l'excite. Je fais vraiment de manière vulgarisée.
C'est parfait.
Voilà, donc on retrouve par exemple, alors parfois on pense que ce sont des hormones aussi comme la sérotonine, mais on retrouve aussi la dopamine, c'est le starter du matin, c'est le starter de la motivation par exemple. Pour la dopamine, on retrouve l'acétylcholine, on retrouve énormément de l'adrénaline, etc. Donc on retrouve beaucoup de choses. Le cortisol, évidemment, qui est l'hormone, alors on la considère comme l'hormone du stress. Moi, je dirais en tant que biologiste, plutôt l'hormone de l'adaptation, parce qu'il faut un petit peu de stress quand même. Sinon, on serait plus là, hein, on serait plus sur Terre sans stress. Hein, c'est impossible. Hein. C'est une réaction physiologique normale, mais elle devient problématique quand elle devient chronique, trop forte, qu'on a du mal à la gérer. Donc, les vitamines du groupe B, elles sont intéressantes. Il y avait par exemple une étude qui a été faite sur les personnes qui souffrent d'agoraphobie. Alors, et on a vu un manque de vitamine B en fait très importante en fait dans ces personnes qui souffraient d'agoraphobie, donc la peur des araignées. Et après, on les a supplémentées, on a vu que ça améliorait leur état. Alors évidemment, on ne devient pas agoraphobe en ayant une carence en vitamine B. C'est pas ce que je dis, bien sûr. Toi, tu le sais. Les peurs, je rappelle, il y en a deux de manière innée. C'est la peur du vide et la peur des bruits un petit peu forts. Et puis après, ça peut venir de l'enfance. Il peut y avoir des traumatismes, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Tu connais mieux que moi. Mais en tous les cas, on a vu effectivement que les vitamines du groupe B permettent d'améliorer un état, on va dire, lié au stress, lié à l'anxiété. Donc, les vitamines du groupe B sont très intéressantes. On va retrouver, bien sûr, la star, mais dans tous les secteurs, dans tous les besoins, le magnésium, ça, c'est vraiment important. 71% de la population en France, en tout cas, parce que je n'ai pas les chiffres dans les autres pays, aux États-Unis, c'est 80%, en Belgique, c'est 82%, manque de magnésium. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails pourquoi on manque de magnésium. Il y a beaucoup de pistes. L'appauvrissement des sols, une alimentation qui n'est pas variée, équilibrée. On retrouve également le stress. Le stress puise dans notre magnésium. Et plus on manque de magnésium, plus on stresse. Donc, c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument stopper. Donc, il y a une fuite comme ça de magnésium très importante. Le magnésium permet d'équilibrer les hormones, les neurotransmetteurs, etc. Le cortisol, l'insuline aussi. Il y a un lien entre le stress et la gestion du poids également. Donc, le magnésium, c'est la base pour que le corps fonctionne bien. N'hésitez pas à voir sur mes différents supports les bonnes formes de magnésium. Encore une fois, c'est très important pour éviter les inconforts digestifs. On va retrouver, bien sûr, la vitamine D. Ça aussi, c'est une des stars qui permettent quand même aussi de gérer les fonctions psychologiques sur le stress. Après, il y a d'autres ingrédients de santé naturelle qui sont intéressants. Avec quelques études aussi, c'est par exemple tout ce qui est la L-théanine. On ne connaît pas assez la L-théanine, malheureusement. Mais on a vu dans les études, et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, donc ça me donne des idées de contenu. Donc, merci beaucoup, Julien. Donc, la théanine, effectivement, c'est un ingrédient de santé naturelle qui est vraiment intéressant pour la gestion du stress au quotidien et qui fonctionne en plus assez rapidement. On voit les premiers effets déjà au bout de 15 jours. très souvent. Donc la théanine, c'est quelque chose que je recommande. Et on va retrouver également quelques plantes aussi. Alors, attention aux plantes parce que, alors plusieurs choses. Un, si on a un traitement, on demande conseil à son pharmacien. De toute façon, même en dehors d'un traitement, c'est toujours bien de faire un point avec son professionnel de santé, c'est vrai. C'est pas parce que ce sont des plantes que c'est anodin ou qu'il n'y a pas de risque ou j'en sais rien. Bon, après, les plantes comme la valériane, je veux dire, il n'y a pas trop de risques à ce sujet, mais c'est toujours bien de le rappeler, je pense. Et aussi, certaines plantes peuvent donner de l'énergie à certaines personnes, tandis que d'autres, on a remarqué que ça améliorait le sommeil. Donc, il faut tester. Là, il faut tester un peu, on réagit un petit peu différemment. Mais c'est vrai que la valériane, j'en avais parlé avec un pharmacien sur ma chaîne YouTube, est vraiment très, très intéressante. Elle a un côté un petit peu, allez, on va dire, anxiolytique, mais très léger, très doux, évidemment. Hein, ce n'est pas un médicament. Quoique, ça peut être un médicament en base de plantes. Hein, mais la valériane, c'est vraiment intéressant, par exemple, pour les problèmes liés au stress et au sommeil. Par contre, si on a un stress avec un manque d'énergie, là, on va plutôt se tourner vers la rhodiola, qui est une excellente plante anti-stress. Elle contribue à la gestion du stress, qu'il soit d'origine psychologique, physique, mais aussi psychique. Donc, le stress, par exemple, je ne sais pas moi, une activité sportive entraîne un stress dans l'organisme, par exemple. Donc, c'est une plante adaptogène qui permet au corps de s'adapter à toute situation, justement. Donc, quelle que soit l'origine du stress. Donc, vraiment, la rhodiola est top. Après, on retrouve d'autres plantes. La shwagandha est incroyable. Alors, par contre, la shwagandha est déconseillée dans le cas d'hyperthyroïdie ou de maladie auto-immune. On retrouve la passiflore qui est assez connue, sans effet secondaire, sans accoutumance également. Voilà, on va dire un petit peu le socle anxiété et gestion du stress. Il y en a d'autres, hein, mais pour moi, c'est vraiment les plus importants. Il y a la mélisse aussi. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la mélisse. Mais la mélisse, c'est bien pour les personnes qui ont des problèmes de stress et qui a un impact également sur la digestion. Hein. On parlera peut-être de la digestion à un moment donné et de l'importance de notre deuxième cerveau. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle deuxième cerveau. Et justement, si vous avez un stress et que ça agit sur votre digestion, la mélisse agit dans les deux cas et qui permet un petit peu d'améliorer en plus votre sommeil.
Alors, j'espère que les gens qui écoutent ont pris un bloc-notes. Sinon, ils vont devoir se repasser, je pense, quelques fois l'épisode. Mais c'est parfait. Merci beaucoup. Et je trouve déjà intéressant que tu rappelles que le stress, c'est adaptatif. Donc, comme tu l'as très bien dit, sans stress, on ne pourrait pas vivre. Donc, peut-être tu connais le podcast, le Huberman Lab. C'est un scientifique américain. Alors, je le cite souvent parce que c'est un podcast qui me passionne. Alors, c'est des podcasts d'1h40 en anglais, un peu de l'acabit de ce que tu racontes. Donc, il faut s'accrocher pour arriver à vraiment intégrer tout ça. Mais lui, il insiste beaucoup sur cette notion du stress comme étant quelque chose d'indispensable. Il parle aussi du côté, par exemple, sur le système immunitaire. C'est le stress qui nous permet aussi de combattre les maladies. Mais comme tu l'as dit, faire attention quand ça déborde. Et je pense qu'il y a des gens, des fois, quand je commence à parler de ce genre de choses en consultation, qui sont un peu là à me dire, mais en fait, moi, je connais personne. Les gens dans mon entourage, ils ne prennent pas tout ça. Puis finalement, ils vont bien. Alors, déjà, c'est très relatif, aller bien. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller bien sans ces compléments-là. Mais quelque part, c'est simplement on augmente peut-être notre difficulté. C'est comme si on fait une marche, notre sac il va être plus ou moins lourd. Et puis, en fonction de la lourdeur de ce sac, ça va être plus ou moins facile de faire notre marche. Donc, c'est là où c'est important de... tu parlais des neurotransmetteurs. Voilà, si les connexions se font un petit peu moins bien là, qu'au niveau digestif, il y a une santé du microbiote qui est peut-être un peu moins bonne. Puis après, les autres variables qui vont rentrer en jeu, en effet, on va jouer au jeu de la vie avec un niveau plus ou moins difficile.
Exactement. C'est une belle métaphore, je trouve, avec ton sac, effectivement. Moi, j'utilisais une bouteille d'eau, tu sais, au bout d'un moment, quand tu la remplis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, par exemple, « Ouais, mais moi, au boulot, ça va pas » ou « J'ai vécu une rupture ». Évidemment, parfois, c'est dur de travailler sur l'origine du stress. Mais en revanche, dans cette gestion du stress, il faut imaginer une bouteille d'eau. Au bout d'un moment, elle déborde, donc gros stress, grosse anxiété. Et vous pouvez faire des petits trous, en fait, pour limiter un petit peu, diminuer un petit peu ce niveau d'eau. Et dans ces petits trous, vous faites un petit trou cohérence cardiaque, un petit trou méditation. Même si vous gagnez 2-3%, à force de faire des petits trous partout, la rhodiola, qui est excellente, le magnésium, etc., eh bien, ça va vous, l'hypnose, ça va vous, la musique, jouer avec un animal de compagnie, etc., ça va vraiment vous aider. Parce que parfois, on ne peut pas travailler sur l'origine du stress, parce qu'on doit chercher un autre boulot, par exemple, etc. Et donc, c'est quelque chose qui peut vous accompagner, vous aider.
Et tu parlais, je te propose qu'on enchaîne là-dessus, parce que tu parlais de la digestion. En effet, comment, alors, l'impact que ça a sur la santé mentale, la santé de notre microbiote, notre santé intestinale, il y a de plus en plus d'études aussi qui sortent là-dessus. Qu'est-ce que tu peux conseiller en termes de peut-être de compléments ou de choses auxquelles on peut faire attention par rapport à ça?
Alors, juste quelques secondes très rapidement, je rappelle que quand même le système digestif, il est vraiment relié au cerveau via le nerf vague. Hein. Donc, forcément, un stress va engendrer, par exemple, une accélération du transit. Souvent, avant un entretien, etc., il y a des personnes qui ont des diarrhées assez fortes. Désolé de parler ainsi, mais c'est important aussi d'en parler. Parce qu'en fait, le corps, en état de stress, veut économiser son énergie pour gérer le stress, fuir ou combattre la menace perçue. Donc, en fait, il va, entre guillemets, mettre en stand-by d'autres choses. Il va dire, OK, je vais... Hop, alors je vais peut-être répéter ce que j'ai tapé dans le micro. Et donc le corps en fait va mettre en stand-by un certain nombre de fonctions, on va dire physiologiques, en disant bah je vais arrêter la digestion, je vais accélérer la digestion pour après la mettre de côté parce qu'on va gérer cette menace perçue. Donc ça c'est important et donc forcément prendre soin de son système digestif est très important. Et là on a énormément de solutions dans la santé au naturel évidemment. Je rappelle en plus que notre microbiote intestinal en gros ce sont les bactéries, mais aussi, il n'y a pas que ça, il y a des champignons, donc des levures, il y a aussi des virus hein, qui peuplent notre système digestif, ont un impact direct sur la gestion du stress, notre humeur, etc. Parce qu'en fait, ils synthétisent eux-mêmes, ils produisent eux-mêmes des molécules, butyrate par exemple, permettent la synthèse de certaines vitamines B, il faut le savoir. Et donc, indirectement, ça va aider pour certains neurotransmetteurs, comme le GABA, qui est un neurotransmetteur lié à la relaxation musculaire. Donc, prendre soin de son microbiote intestinal, c'est par exemple les probiotiques. Donc ça, les probiotiques sont hyper intéressants. Donc les probiotiques, on les a comment? Dans les aliments déjà fermentés. On en mange très peu, justement. À l'époque, avant l'industrialisation, on en mangeait plus souvent, justement. Et là, aujourd'hui, notre alimentation, elle est très pauvre. Par exemple, on ne boit plus de lait cru. Alors oui, il y a eu des petits soucis avec le lait cru, mais aujourd'hui, avec la chaîne du froid, etc., on nettoie les pies des vaches, on n'a plus ce problème-là comme on avait à l'époque. Et c'est dommage parce que justement, bah, ça permettait d'avoir quelques probiotiques. Dans les yaourts, aujourd'hui, on n'a plus grand-chose, hein. On en rajoute même pour que le yaourt se solidifie. On en rajoute de manière, entre guillemets, on va dire artificielle. Et ça, c'est un gros problème. Donc, tout ce qui est lié aux aliments lacto-fermentés qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, et ça, c'est bien, pickles, kombucha, kéfir de fruits. Si vous n'aimez pas le lait, vous voulez pas boire du lait, bah, vous pouvez faire des kéfirs de fruits. En plus, vous pouvez les faire sans sucre, par exemple, etc. Donc, il y a plein de solutions qui s'offrent à vous. Et là, vous avez des probiotiques, mais vous avez également les probiotiques, j'aime bien en ajouter également aux gélules, donc en complément alimentaire, par exemple, sur 3 mois. Parce que dans ces aliments lactofermentants, on ne sait pas trop la quantité. Il faut les faire maison, hein, parce que pasteuriser dans la grande distribution, ce n'est pas génial aussi. Donc, si vous pouvez le faire à la maison, c'est top. Donc, il y a ça. Et puis, vous avez bien sûr les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est quoi? Ce sont en gros, ça regroupe la nourriture pour les probiotiques. Probiotiques, les bonnes bactéries. Les prébiotiques, c'est très simple. Je ne conseille pas forcément de prendre ici des compléments alimentaires. Autant les probiotiques, il faut mixer les deux, vous n'avez pas le choix. Moi, je le fais, hein, je fais des cures de 3 mois de probiotiques en gélule. Puis le reste du temps, je prends tout le temps des aliments lactofermentés de temps en temps dans mon alimentation. Mais pour les prébiotiques, je vous conseille vivement de ne pas prendre des poudres en complément alimentaire, de vous tourner vers votre alimentation, de prendre des fibres solubles et insolubles, et en gros, 25 à 30 grammes de fibres par jour. Et pareil, on ne mange pas assez de fibres. Et ça, c'est important pour notre équilibre hormonal, pour nos bactéries dans notre intestin, pour la motricité intestinale, etc. Donc là, on a un petit socle. On peut penser également, et ça, c'est valable pour tout le monde, les oméga-3, DHA et EPA d'origine marine. Il y a énormément d'idées reçues à ce sujet. Et j'en parle très souvent avec des neurologues, justement. Et souvent, on me dit, en fait, la personne, elle mange des noix, elle consomme de l'huile de colza, elle consomme des amandes, donc elle n'a pas besoin d'oméga-3. Non, ça, ce sont des oméga-3 ALA. Ce sont des oméga-3 d'origine végétale. Ils sont très intéressants, effectivement, mais il faut aussi du DHA et EPA. On estime que 9 personnes sur 10, et pour ça j'insiste aujourd'hui, manquent d'oméga-3, DHA et EPA. Et ça, c'est une catastrophe pour la santé mentale, mais c'est aussi une catastrophe pour votre microbiote intestinal, pour vos bactéries, pour une inflammation intestinale éventuelle, etc. Et donc, comment on a ces oméga-3 qui permettent de prendre soin de notre microbiote intestinal, de notre digestion? C'est de manger, par exemple, si vous pouvez, évidemment, 2 à 3 petits poissons gras de qualité par semaine, anchois, sardines, maquereaux, hareng par exemple. Et ça, c'est très intéressant. Et vous pouvez complémenter de temps en temps. Moi, je le fais par exemple 2 mois par trimestre, semestre, pardon. Ça peut être intéressant. Ou si vous ne mangez pas de poisson parce que vous êtes allergique, vous voyez votre médecin. Normalement, on peut consommer de l'huile de poisson parce qu'il n'y a pas de protéines dedans. Vous voyez, les gens ne le savent pas. Et c'est possible, mais après vérification avec votre médecin. Et si vous êtes vegan, il y a des solutions, des capsules de schizochytrium SP. Et vous n'avez pas le choix de vous supplémenter tous les jours, tout au long de l'année. C'est important parce que sans oméga-3 DHEPA, alors déjà, c'est un peu pour le cerveau, mais surtout pour votre système digestif, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ils ont une petite activité anti-inflammatoire, etc. La dernière chose que je pourrais dire sur les compléments, on va dire, qui permettent de prendre soin de la sphère digestive, c'est par exemple les enzymes digestives. Si vous avez du mal à digérer, vous n'avez pas trop repéré le problème, on n'y pense pas souvent. On est en capacité de produire nos propres enzymes digestives, mais il faut savoir qu'avec un stress important, en fait, on a du mal à les sécréter, à les produire. Il y a l'âge aussi hein, qui fait qu'on les produit de moins en moins. Une alimentation déséquilibrée, eh bien, un petit coup de pouce comme ça de temps en temps, des petites enzymes digestives en gélules ou comprimées, permettent justement de gérer la digestion, le temps de creuser les causes profondes et de pouvoir gérer cette digestion. Après, il y a d'autres solutions. S'il y a une inflammation de bas grade, inflammation intestinale, on a la curcumine qui peut être intéressante aussi, mais seulement si on a ça. Par exemple, donc la curcumine, je rappelle, c'est déconseillé dans le cas d'obstruction des voies biliaires. Je le dis, même s'il faut demander à son pharmacien, je le dis quand même, c'est important. Et si on prend des anticoagulants, mais la curcumine, c'est vraiment très, très intéressant aussi pour le système intestinal. Voilà. Bon, après, l'intestin, on pourra en faire le microbiote, je pense, on pourra en faire un podcast hein, dédié. Donc là, je donne quelques pistes et j'en parlerai de toute façon en septembre sur Instagram.
Alors, à nouveau, je vais essayer de rebondir sur toutes les infos que tu as données. Petite oui. question, j'ai commandé justement dernièrement des compléments oméga-3 DHA EPA, mais qui ne viennent pas de sources de poissons, qui viennent d'algues. On m'a dit, ouais, c'est pas mal, mais ce n'est pas le top. C'est quoi qui fait ça? C'est parce que c'est des ALA aussi ou c'est...
Alors en fait, justement, la seule source aujourd'hui, entre guillemets, végétale, mais ça reste d'origine marine puisque c'est une algue, c'est justement l'algue de Schizochytrium SP. Alors moi, je ne communique pas de marque, hein, mais ils peuvent trouver facilement sur Internet ou avec son pharmacien. Cette algue, en fait, il y a deux choses à voir. La première, c'est que parfois, il n'y a pas assez de EPA. Il y a beaucoup de DHA, mais il y a très peu d'EPA. Par exemple, on se retrouve avec 3 mg, 10 mg, 20 mg d'EPA. Et c'est clairement pas suffisant parce que il faut se rapprocher de ce qui se fait dans la nature et d'avoir les deux, EPA, DHA. Ils ont une activité complémentaire, il y a une synergie, une activité anti-inflammatoire, etc. Donc, il y a certaines algues, effectivement, de Schizochytrium SP, il n'y a pas assez d'EPA. Et celles où il y en a un peu plus, c'est vrai qu'il en manque toujours un tout petit peu par rapport aux poissons qui apportent un peu plus d'EPA. Mais c'est quand même mieux que rien. Si on peut prendre de l'huile de poisson, si on peut en prendre, je conseille plutôt l'huile de poisson qui est plus équilibrée. Si par contre on est vegan et que voilà, ou pour d'autres raisons, on va dire par rapport à la planète, etc., mais ça c'est aussi un autre débat parce que c'est pareil, les végétaux, quand on a plein de cultures de végétaux, c'est aussi un problème pour la planète parce qu'on voit des monocultures et c'est juste une horreur. Donc ça aussi, on pourra en reparler, mais ça, c'est un autre débat. Le truc, c'est que pour les algues de Schizochytrium, ok, mais c'est par défaut. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pour des raisons environnementales. Ou pour des raisons, on est vegan, etc.
C'est intéressant parce que j'ai regardé, d'ailleurs, c'est pour ça que je mettrai toutes tes infos YouTube, Insta, etc. C'est que je suis tombé sur ta vidéo, justement, YouTube, sur les oméga-3. Et puis, j'ai pu justement voir les dosages. Et en effet, il n'y a pas assez d'EPA par rapport à ce que tu disais avant. Donc, intéressant. Je vais me pencher là-dessus.
Mais ça va arriver. Pour information, ça va arriver, on va pouvoir demander une autorisation de mise sur le marché. Parce que c'est pareil, on me dit souvent, ah mais les compléments alimentaires comparés aux médicaments, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Bien sûr, tout ce qui est nouveau, l'algue de Schizochytrium SP, il y a une autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle le règlement Novel Food dans l'Union européenne. Mais en tous les cas, il va y avoir une autorisation pour le kelp. Et donc si on mixe un petit peu, pour les personnes véganes, par exemple, le Schizochytrium et l'huile de kelp qui devrait arriver peut-être d'ici un an, là on pourra augmenter un petit peu plus le taux d'EPA.
D'accord. Bon, on a...
C'est un fond d'exclusivité.
C'est ça. Et je trouve, en fait, hyper intéressant parce qu'à nouveau, on se dit, OK, on prend des compléments, mais tu mets en évidence l'importance d'avoir une bonne santé intestinale parce que si on prend des compléments, mais que dans notre microbiote, il n'y a pas les bonnes bactéries ou les bonnes... l'environnement favorable pour que ça soit bien assimilé, ben, finalement, c'est très bien, on prend des compléments, mais ils vont passer quelque part un peu tout droit et on ne va pas pouvoir en bénéficier pleinement. Donc, je trouve intéressant de voir vraiment à nouveau ben, cette vision globale de cette santé. Par rapport aux produits lactofermentés, moi, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Et moi, je suis quelqu'un de très impatient. Je ne suis pas du tout un cuistot. Et en fait, c'est extrêmement simple de faire ses propres produits lactofermentés, type choucroute, par exemple. Et bah, pour les flemmards, c'est aussi hyper pratique parce que du coup, moi, j'ai tout le temps un pot de choucroute dans mon frigo. Quand je n'ai pas le temps ou que je n'ai pas fait les courses, que j'ai besoin de légumes, bah, je ressors ça. Et puis, bah, non seulement c'est rapide, c'est bon, et puis c'est bon pour la santé.
Exactement, et c'est normal, je préfère aussi le dire, si au début vous avez des petits inconforts, des gaz, des ballonnements, c'est parce qu'on n'a plus l'habitude, encore une fois, de manger ces aliments. C'est comme si vous mangiez aussi, par exemple, du fast-food tout le temps et du jour au lendemain, vous mangez des fibres. Ça va vous irriter l'intestin alors qu'on est fait pour manger des fibres. Hein. Donc je rappelle, vous pouvez le faire progressivement, par étapes, mais c'est très, très, très important de consommer des aliments lactofermentés.
Alors, tu as déjà mentionné beaucoup de choses qui vont... Alors, quand tu parlais notamment du stress, de l'anxiété, du microbiote, toutes ces choses-là, bah, le microbiote aussi va avoir un impact sur le stress et sur des affects, par exemple, dépressifs. J'aimerais qu'on se penche un peu là-dessus. Donc, sur, voilà, je parle vraiment d'affects dépressifs, pas d'une dépression, parce que ça, c'est vraiment un diagnostic, mais on peut avoir des affects dépressifs sans être sous un diagnostic de dépression. Qu'est-ce qui peut-être peut avoir un impact là-dessus, en dehors de déjà tout ce que tu as cité, comme le magnésium, les oméga-3, la vitamine D, vitamine C, etc.
Alors, on a effectivement une plante qui est pour moi juste incroyable, qui va contribuer à la bonne humeur et l'équilibre émotionnel, c'est le safran. Et quand je parle du safran, ça c'est aussi une erreur que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est que les gens pensent, un peu comme la curcumine et le curcuma, que c'est la même chose qu'on a dans notre placard de cuisine avec les épices. Non, les épices, les aromatiques, évidemment, c'est très important. Mais je rappelle que le complément alimentaire, ce sont des denrées alimentaires enrichies, concentrées, etc. Donc, par exemple, on a 1 à 5% de curcumine dans le curcuma, alors que là, on a plus de 50 à 90% dans le complément alimentaire et c'est ultra concentré. Et on ne pourrait pas consommer ça en une fois dans l'alimentation. Donc, le safran. En gélule, il faut que ça apporte du safranal pour que ça fonctionne. Hein. Minimum 300, 200, 300 microgrammes de safranal. Et il y a énormément d'études publiées sur le moral, l'humeur, l'équilibre émotionnel. C'est pour moi une des meilleures plantes pour gérer ça, avec bien sûr les basiques, comme tu l'as dit précédemment, c'est-à-dire le magnésium, la vitamine D, etc. Parce que de toute façon, le corps ne fonctionnera pas correctement sans vitamines et minéraux. Qui restera la base, et les oméga-3 DHAEPA. Les oméga-3 DHAEPA, je sais, j'insiste encore, mais là aussi, il y a quand même beaucoup de papiers aujourd'hui. Il n'y a aucun doute sur l'impact en fait, des oméga-3 sur justement le moral. Donc ça, c'est très important. Après, on retrouve d'autres plantes comme Griffonia, qui peut être très intéressante également, parce qu'elle contient en fait du 5-HTP. Le 5-HTP, en fait, est dans notre corps, quand on consomme du tryptophane, qu'on retrouve d'ailleurs dans les bananes, etc., mais là, en haute concentration, ça se transforme en 5-HTP, ensuite en sérotonine, théoriquement, dans le corps, puis ensuite en mélatonine. Sérotonine, c'est quand même l'hormone, on va dire, du bien-être, de la bonne humeur, etc. Et donc, le 5-HTP qui est contenu dans Griffonia va permettre justement de contribuer à une humeur positive, à un équilibre émotionnel, à consommer plutôt là en fin de journée pour Griffonia, proche du repas, parce que juste avant de se coucher, ça peut donner des petits troubles digestifs. Donc, on va dire pendant le dîner ou 2 heures après max, 1 heure après max. Ça, c'est pareil, j'en parle très souvent sur les réseaux sociaux. Quel moment on prend les compléments aussi, parce que ça, c'est très, très important pour qu'ils fonctionnent le mieux. Donc, Griffonia, intéressante. La rhodiola permet également un petit impact positif aussi qui contribue à la bonne humeur. C'est pour ça qu'on voit énormément d'études rhodiola plus safran, par exemple, qui mixent un petit peu les deux. Donc ça, c'est intéressant. On peut aussi consommer, pourquoi pas, hein, du tryptophane en gélule sans passer par Griffonia. Alors, je rappelle, pour le tryptophane et Griffonia, est déconseillé si on prend déjà des anxiolytiques antidépresseurs parce qu'en fait, ça mime un petit peu, finalement. On ne veut pas le dire de manière officielle, mais c'est ça, en fait. Hein. C'est pour ça que on va faire... déconseillé ne veut pas dire interdit. Ça veut dire qu'on est accompagné par son médecin ou son pharmacien pour voir un petit peu comment on peut les utiliser, à quelle quantité et si on peut les utiliser. Hein. Je le rappelle, ne faites pas ça seul si vous avez un traitement, évidemment. On retrouve également, effectivement, bah, on a vu des études, mais là, elles sont insuffisantes à mon sens. Mais on a vu déjà des petites choses intéressantes sur justement les probiotiques, encore une fois, parce que ça agit sur les neurotransmetteurs, mais on attend d'autres études pour confirmer ce point sur les probiotiques, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a un point, on n'y pense jamais dans la, je vais employer les grands mots, hein, dans la dépression, mais par contre, ne prenez pas ça si vous êtes dépressif, parce que ce n'est pas un médicament, mais je voudrais en parler quand même, c'est le manque de fer. Alors, le manque de fer, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et malheureusement, ce manque de fer, et il y a plein de papiers à ce sujet-là, j'en parle, je mets les références scientifiques dans mes publications, entraîne une dépression. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, prenez pas du fer comme antidépresseur, ça n'a rien à voir. Mais justement, n'attendez pas. Et il y a beaucoup de personnes qui manquent de fer. Il faut gérer ce manque de fer, et ce n'est pas que prendre un médicament ou même un complément alimentaire à base de fer. Là, c'est pareil, il faut avoir une approche globale, prendre soin du microbiote intestinal, par exemple, prendre beaucoup d'aliments qui contiennent des vitamines du groupe B, etc., etc., qui permettent justement de gérer ce manque de fer. Et enfin, je voulais en parler aussi, c'est la B12. La B12 est très importante, et ça permet peut-être de faire la transition, si tu veux parler un peu des personnes qui sont un petit peu énervées, irritables, impatients, confus. La B12, justement, peut entraîner, pas un peu cet aspect un peu folie, mais légèrement quand même, il y a quand même des études qui le montrent, et ça fait partie du top 5 des carences en France, hein, sur la B12, et souvent on ne le sait pas, on passe à côté, parce que justement dans la prise de sang, la vitamine B12, en fait, quand on la dose, c'est insuffisant parce qu'on dose aussi la forme inactive dans le sang. Et il faut demander absolument la forme active au laboratoire d'analyse médicale, et ça, ils le font très rarement, et en plus, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais il faut faire la forme active. Et là, on sait vraiment si on manque de vitamine B12, ou alors d'en prendre en supplément, il n'y a pas de risque de surdosage, demandez conseil à votre pharmacien quand même. Et la B12 aussi est très intéressante, que ce soit pour le moral, mais aussi pour la confusion, le tempérament un peu anxieux, etc.
Et c'est vrai que tu parles d'irritabilité ou de la colère. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a eu des études qui avaient été faites en prison sur où ils avaient testé différents régimes alimentaires, et une partie des prisonniers avait un régime qui était beaucoup plus bas en graisse transformée, beaucoup moins sucré également, et ben, ce qui va du coup améliorer la santé du microbiote notamment. Et ils remarquaient qu'il y avait beaucoup moins de problèmes de violence avec cette partie de la prison là. Donc, à ne pas négliger.
Exactement. On parle beaucoup d'hyperactivité, par exemple, chez les enfants. Et le manque d'oméga-3, de magnésium, et surtout un lien avec le microbiote intestinal qui, aujourd'hui, est complètement agressé, on va dire, par tout ce qu'on consomme, notamment les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, le plastique, etc. Donc, et le fait de ne plus manger des aliments lactofermentés, justement.
Sans parler du style de vie, parce que le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un grand débat et qui est souvent amené sur la table des psychologues. Je trouve intéressant en effet de questionner l'alimentation, c'est un gros truc. Le sommeil, le style de vie, tu parlais des écrans en tout début d'épisode, c'est aussi des choses qui, n'importe qui finalement, qui use son attention sur des écrans à longueur de journée avec des algorithmes qui sont faits pour user cette attention, quelque part va développer ou avoir les symptômes d'un trouble d'attention. Donc c'est là où, à nouveau, on va le répéter 50 fois aujourd'hui, mais il ne faut pas se fier à un seul symptôme, il faut un peu investiguer un peu partout dans le style de vie, dans la physiologie, etc., pour pas foncer tête baissée sur, voilà, il y a un trouble et puis qui nécessite un traitement dédié. Là, on est déjà bientôt à une heure d'interview, mais j'ai envie d'aborder encore deux, trois petits sujets. Parce que il y a les problèmes de sommeil, finalement, qui se retrouvent dans ces autres problématiques. Hein. Tu as parlé d'anxiété, dépression, etc. Finalement, ça vient avec des problèmes de sommeil. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui améliorent ce côté-là?
Oui, bien sûr. Je pense notamment à la mélatonine, par exemple, qui est quand même assez intéressant, qui se retrouve en plus à la fois dans le domaine du médicament et dans le domaine du complément alimentaire selon les dosages. Moi, je recommande vivement de prendre de la mélatonine à libération prolongée déjà pour accompagner tout au long de la nuit. Éviter, parce que la mélatonine a une demi-durée de vie de 30 minutes, hein, donc on la prend. Si jamais on a oublié de faire quelque chose avant de se coucher, ça peut être un petit peu compliqué, même si elle est intéressante, elle demeure intéressante parce qu'elle permet aussi de booster un peu notre production notre propre production de mélatonine. Mais la mélatonine à libération prolongée, c'est ce qui est top. Et en plus, c'est ce qu'on devrait sécréter nous-mêmes à partir de 21h à peu près, quand les yeux perçoivent cette obscurité. On synthétise la mélatonine, qui est l'hormone, on va dire, qui n'est pas du sommeil. Hein. Normalement, c'est l'hormone du rythme circadien, notre horloge biologique. Et donc, en fait, elle permet justement d'accélérer le temps d'endormissement, de permettre d'éviter un peu cet effet de jet lag aussi des personnes qui se décalent à cause de l'anxiété, du stress, parce que, je ne sais pas, ils ne travaillent pas ou autre, ou ils ont du mal à s'endormir trop tôt, alors qu'ils mettent tout en place. Donc, c'est vrai que la mélatonine, c'est intéressant. Là, on n'est pas sur le stress, on est vraiment sur le sommeil, très spécifique pour la mélatonine. On va retrouver également des plantes, on en a parlé, la valériane, la passiflore, mais aussi l'aubépine. Et souvent, justement, j'en parle sur mes différents réseaux sociaux, on se dit, mais quelle plante je prends selon mon besoin? Par exemple, une personne qui a du mal à s'endormir et qui, c'est possible, entend son cœur avec le stress battre un petit peu trop fort le soir. C'est possible, soit au niveau du cou, au niveau de l'oreille ou j'en sais rien. Et bien sûr, en amont, on voit son médecin pour justement écarter toute maladie cardiaque. Et on se dit, bah non, il n'y a aucune maladie, c'est le stress. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et c'est là encore l'intérêt des compléments alimentaires. On retrouve notamment l'aubépine. L'aubépine, c'est une excellente plante. Elle va contribuer à des fonctions cardiaques normales. Elle va permettre de gérer le stress. Elle va permettre d'améliorer le sommeil, etc. Si on se réveille trop tôt le matin, là, on est plutôt sûr, si on n'a pas de problème de cœur qui bat un petit peu trop fort dû au stress, on retrouve le pavot californien, par exemple, qui là est plus spécifique. Les réveils trop tôt le matin, on se réveille 1 heure avant le réveil, 1h30 avant le réveil. Il nous manque une petite... un petit cycle du sommeil, on va dire. Donc là, typiquement, elle peut être intéressante. Toujours avec la mélatonine à libération prolongée pour nous accompagner toute la nuit, pour restructurer le sommeil sur 1 mois, 2 mois, par exemple, peut être très intéressant, par exemple. Et surtout, on a vu avec la mélatonine, je rebondis dessus, quand on arrête le produit, on voit que ça continue à faire effet. Parce que le corps, il y a un phénomène de mémoire sur le rythme circadien. Si, bien sûr, vous respectez en n'allant pas sur les écrans à 1h du matin, c'est sûr, parce que là, ça reste compliqué. Hein. La passiflore pour le sommeil un petit peu plus réparateur, la valériane pour l'endormissement et pareil pour gérer un petit peu ce stress, pour nous accompagner tout au long de la nuit. Là, on a, je dirais, des choses qui sont très, très, très intéressantes pour le sommeil. Dernière chose quand même très, très importante qu'on oublie toujours, 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 c'est que le sommeil se gère dès le matin et pas le soir. C'est pas parce que, et c'est très bien, hein, mais vous vous dites, voilà, il est 20h, j'ai fini de dîner, je vais éteindre mes écrans, je regarde pas la télé. Et je vais lire un bouquin. C'est très bien, évidemment, mais ça se prépare le matin. Le matin, on se réveille, on s'expose si possible à la lumière du jour, on ne regarde pas ses écrans de téléphone, etc. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des ingrédients de santé naturelle qui peuvent vous aider dès le matin aussi. Et je pense notamment à la rhodiola. La rhodiola est un anti-stress, mais ça peut aider aussi pour le sommeil le soir. Mais par contre, on ne prend pas la rhodiola le soir parce que ça peut exciter. Donc, on la prend par exemple le matin, 10 à 15 minutes avant les repas. Donc avant le petit déjeuner, voire éventuellement avant le déjeuner. Et ça, c'est pareil. Le fait, c'est ça, c'est une plante qui gère cet aspect un peu fonction psychologique normale, donc sommeil, stress et morale. Donc voilà quelques exemples, je dirais, sur la partie sommeil.
Et à nouveau, bah, c'est super intéressant de prendre les habitudes de vie, parce que comme tu le dis, ça ne sert à rien d'aller prendre la mélatonine si derrière, on est sur Twitch avec une lampe de gaming. Parce que bah, nos rythmes circadiens, ils sont réglés par la lumière. Donc, en effet, bah, avant de prendre un complément, peu importe lequel, bah, on va déjà baisser la lumière, éteindre les écrans. Aussi, bah, je ne sais pas, par rapport au sommeil, avoir une chambre qui a une bonne température, qui a une température plus fraîche, etc. Donc, à nouveau, prenez les choses de manière générale. Par rapport à la mélatonine, j'avais entendu que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas du tout donner, par contre, aux enfants ou qui ont pas, enfin, qui sont pas encore adolescents ou qui ne sont pas encore adultes, parce que ça avait justement un impact sur la puberté.
Alors, je ne sais pas quelle étude, il faudra regarder la quantité dans cette étude, mais en fait, justement, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, la HAS en France, qui nous dit justement que chez certains enfants, ça peut être intéressant justement avant l'adolescence, mais uniquement avec une prescription d'un médecin. Par contre, parce que j'estime qu'à cet âge-là, si on prend de la mélatonine, c'est qu'il y a quelque chose quand même à creuser avec son médecin. Mais non, il y a des études, il y a des médecins que je connais qui prescrivent de la mélatonine à des enfants avant l'adolescence. Donc ça dépend. Après, ça restera toujours, je pense, du cas par cas ici. Hein. Faites très attention, bien sûr, aux enfants, aux adolescents, à être encore plus accompagné pour le coup de son professionnel de santé.
J'ai rajouté, il y a un truc qui m'est venu, et parce que je sais que tu en parles souvent, et si je regarde les statistiques du podcast et de mes réseaux, en tant que psy, je crois qu'il y a 85% des personnes qui me suivent qui sont des femmes. Et je sais que tu parles souvent du syndrome prémenstruel et aussi des douleurs de règles. Et à nouveau, c'est un truc que toi, tu m'as appris et tu mets vraiment l'accent sur le fait que c'est pas, on n'est pas condamné à vivre ça en tant que femme, que c'est pas forcément normal, même si on a intégré que oui, il devait y avoir tout ça. Comment est-ce qu'on peut soulager ces aspects-là, en tant que femme?
Alors, c'est très intéressant et en plus, j'en ai parlé avec une gynécologue. Je suis en train de monter la vidéo justement pour YouTube en septembre, parce que c'est important aussi qu'un médecin dise à la communauté, non, on a banalisé les douleurs de règles. Ce n'est pas normal. Alors ici, il y a deux voies. La première voie, c'est effectivement la maladie. Donc, par exemple, l'endométriose qui aujourd'hui est très mal diagnostiquée. Notre président en France nous a dit il y a un an et demi qu'on allait travailler sur ça parce que ce n'était pas normal de la diagnostiquer aussi tard. Mais il n'y a pas eu d'avancement. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être la priorité en tout cas. Et c'est dommage. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect, ce que je disais tout à l'heure, physiologique. Tout n'est pas forcément maladie. Et dans cet aspect physiologique, eh bien, on retrouve par exemple des choses toutes bêtes. Le manque de magnésium, le manque de zinc. Combien de femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui prennent du zinc pour les cheveux, ou alors ils me disent, écoute Mathieu, je te fais confiance, donc je prends du zinc, ils me disent, mais attends, t'as fait une vidéo sur les règles douloureuses, mais c'est pour ça que j'ai plus mal, c'est pour ça que mon cycle il est régulier, etc. Et donc, ce n'est pas un placebo, parce qu'à la base, la personne a cherché pour ses cheveux, etc. Et c'est hyper logique. Il y a des études qui montrent que le zinc permet la liaison, en fait, de tout ce qui est progestérone au niveau de l'endomètre, qui permet de synthétiser du GABA, qui est un relaxant musculaire, puis plein d'autres réactions biochimiques dans le corps. Et c'est dommage. Les oméga-3, encore une fois, des DHA et EPA, qui sont anti-inflammatoires et qui permettent également de faire beaucoup de choses sur l'équilibre hormonal, l'équilibre des hormones sexuelles, thyroïdiennes, etc. Donc, oui, les règles douloureuses, ce n'est pas normal. Il faut bien sûr toujours consulter son médecin dans un premier temps, mais encore une fois, ça se travaille. J'ai énormément de témoignages sur mes vidéos et je suis, à la fois, je suis pas surpris parce que je le sais en tant que scientifique, mais oui, je reste quand même surpris de me dire, OK, on ne leur a jamais recommandé les basiques. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage pour le coup. Il y a des études, hein, qui le montrent.
Mais dès le moment où cet épisode va sortir, on en a terminé. On pourrait appeler Monsieur Macron et dire c'est tout bon, on n'a plus besoin de faire de gros projets de santé publique parce que voilà, le podcast est sorti. Et
Exactement. C'est
donc.
dommage de ne pas intégrer. C'est pour ça, hein, que j'ai choisi cette voie-là sur les réseaux sociaux. C'est parce que pour moi, ils sont essentiels. Et justement, la gynécologue que j'ai invitée pour la rentrée, là, elle en parle aussi. Elle dit, mais moi, mes consultations, je parle au moins des basiques comme le magnésium, la vitamine D, etc. Et ça peut aider, hein. On n'est pas obligé de prendre 15 000 compléments alimentaires, juste les basiques au moins, dans un premier temps. Les multivitamines et minéraux, c'est la base, même si vous n'en manquez pas, à part le fer. On ne prend pas de fer si on n'en manque pas, ou de calcium. Mais tout le reste, il n'y a pas de risque en fait de surdosage, du moins dans l'Union européenne. Après, si vous êtes aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué ici.
Merci déjà énormément pour toutes les indications que tu nous offres. Pour terminer un petit peu ce podcast, j'aimerais parler un peu plus de toi, puis peut-être de ce qui t'attend ou ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. On l'a dit plusieurs fois, tu es super présent sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une petite idée, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, j'ai regardé, je crois, hier, 144 000 personnes qui te suivent sur Instagram, 8 000 sur YouTube. Plus de 400 000 sur TikTok. Alors, tu nous as dit ce qui t'avait amené à partager en fait ton savoir. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir ce succès sur ces réseaux sociaux.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de succès. Moi, j'ai toujours un peu de mal à me dire que aujourd'hui, je suis le compte numéro 1 santé naturelle, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Du moment qu'on dispense l'information, c'est le plus important. S'il peut y avoir des personnes comme moi, justement, des biologistes qui peuvent en parler, c'est important. Parce qu'on a souvent aussi tendance à se dire la santé est limitée aux médecins. Pas du tout. Pasteur n'était pas médecin. les 80% des prix Nobel de la médecine sont des biologistes, hein, je le rappelle, c'est important aussi. Et donc, justement, je pense que ce qui a changé, c'est peut-être mettre en avant le métier de biologiste, finalement, qui sont un petit peu inconnus. Mais tout ce qui est biologie médicale, les prises de sang, les analyses de salivaire, urinaire, tous les produits, que ce soit des médicaments, des compléments alimentaires, des cosmétiques, tout ce qui est santé naturelle, etc., ce sont des biologistes. La prévention santé, c'est de la biologie préventive, avant d'être de la médecine préventive. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est peut-être ça qui a changé, on va dire, c'est de se dire, OK, on a mis en avant le métier de biologiste. Et moi, je trouve ça vraiment top pour le coup, parce qu'on n'est pas beaucoup présents sur les réseaux. J'aimerais bien qu'on soit plus nombreux. Et j'en connais, hein, bien sûr, il y a quelques biologistes, mais c'est ça qui a changé aujourd'hui. Et ce qui a changé également, c'est vrai, c'est peut-être l'impact que j'ai aujourd'hui sur les marques qui me suivent, qui changent leur formule, qui me contactent parfois pour développer leurs produits, ou pour modifier leurs produits. C'est peut-être ça aujourd'hui qui a changé le plus. Après, il y a aussi des choses un peu plus personnelles. C'est vrai qu'on me reconnaît dans la rue. Je n'ai pas l'habitude, encore une fois. Je ne suis pas une star du tout. Je ne me considère pas comme le numéro un sur les réseaux. Mais c'est vrai que voilà, parfois, il m'arrive, j'entends « Ah, Mathieu de NutraStream ». Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude encore aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas du tout l'habitude qu'on me reconnaisse dans la rue. Voilà les petites choses qui ont changé, je pense, dans ma vie, en tout cas, aujourd'hui.
Bah, d'ailleurs, j'ai eu une interview avec deux personnes, Lucrezia Bordi et puis Elisabeth Da Silva. Ça m'avait fait rire, tu avais croisé un salon à Genève.
Oui, c'est vrai.
Et ça, c'est moi ce qui me fait rire aussi en tant que psy, bah, voilà, qu'on reconnaît dans la rue. Ça m'est arrivé qu'on me demande des selfies voilà, en soirée ou peu importe. Et je pense que ça doit être assez drôle aussi en te disant qu'en tant que biologiste, si on t'avait dit il y a quelques années qu'on t'arrêterait dans la rue et pour faire une selfie avec toi, je pense que ça t'aurait fait assez rire. Et oui. Moi, je trouve que c'est un truc hyper cool parce que si je me replonge dans mon adolescence, on faisait pas de selfie à l'époque, on n'avait pas de quoi les faire, mais... si j'avais eu un smartphone, je sais pas, j'aurais fait des selfies avec des basketteurs, des sportifs, je sais pas, des chanteurs. J'aurais pas fait de selfies avec un biologiste ou un psy ou un médecin. Et ça, je trouve hyper cool en fait que nos métiers puissent devenir aussi des gens qui inspirent. Et ça, le travail que l'on fait sur ces réseaux. Ça a autant un impact sur les personnes en tant que patients ou clients, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas pour leur santé. Mais ça a aussi un impact sur la profession, parce que comme tu dis, ça met en avant une profession, des savoirs spécifiques. Et ça, je pense que c'est important de le souligner.
Tout à fait.
Est-ce que tu as des projets pour la suite? Qu'est-ce qui t'attend ces prochains mois? Est-ce que tu as des défis particuliers et puis qu'est-ce que je peux te souhaiter par rapport à ça?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai rien prévu sur les réseaux sociaux. On a toujours l'habitude, quand on a un créateur de contenu, de se dire « Ok, à un moment donné, on va construire quelque chose ». Mais moi, je suis vraiment arrivé comme ça à dispenser mes conseils. Je ne pensais pas aujourd'hui qu'on atteigne plus de 560 000 personnes avec tous les réseaux sur ce sujet, on va dire, spécifique des produits de santé naturelle et de la biologie préventive, on va dire, ou santé intégrative. Donc, c'est vrai que ma communauté me demande tout le temps de faire quelque chose. Alors, il y a énormément de choses qui sont possibles, je regarde, je ne sais pas. Par exemple, pourquoi pas faire un livre? C'est vrai qu'on me le demande très souvent, mais ça prend beaucoup de temps et j'ai un travail à côté, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc, c'est compliqué, hein, un livre, j'ai déjà fait en plus, mais en B2B, donc ça veut dire avec des professionnels. Donc, je sais le temps que ça prend. Parfois, on demande une application, on demande pourquoi pas faire demain de la collab, mais avec... une collab très constructive, pas un panneau publicitaire, c'est-à-dire je me suis associé avec cette marque, on développe un produit ensemble, on améliore, regardez comment c'est fabriqué, parce que moi je ne veux pas être un panneau publicitaire, ça j'ai pas envie, et puis parfois on demande même des produits NutraStream, donc il y a énormément de choses, mais pour être transparent, je ne me suis jamais posé sur ça, je n'ai jamais eu le temps. On me demande aussi des consultations, voilà, des consultations, on va dire, de coaching santé, de prévention santé. Donc, tout est possible. C'est ça qui est intéressant avec les réseaux sociaux. Et c'est eux qui décident finalement. Hein. C'est ma communauté qui vote, etc. Mais c'est un peu les retours. Donc, moi, ce projet-là, en tous les cas, de faire quelque chose avec eux, je ne l'ai pas aujourd'hui. En revanche, j'ai un rêve, mais ce n'est pas un projet. Donc, on peut parler de ce rêve-là. Ça va paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais j'aimerais détruire la réglementation européenne sur les produits de santé naturelle et qu'ils soient considérés vraiment non plus comme des compléments alimentaires qui ne servent pas à grand-chose, mais comme produits de santé naturelle, comme le règlement PSN au Canada. C'est une honte aujourd'hui dans l'Union européenne de ne pas pouvoir dire, par exemple, pour une marque, à quoi sert la cranberry, alors ça va changer bientôt, mais ou les probiotiques dans les produits. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis une marque en Suisse, je pourrais dire les probiotiques, ça sert à ça, ou la cranberry, c'est bien pour les gènes urinaires. Pour la prévention, évidemment, hein, pas dans le cadre de cystite. Je suis au Canada, je suis en Asie, je peux en parler. Dans l'Union européenne, je n'ai pas le droit d'en parler si je suis une marque. Moi, je peux, en tant que média, parce que je suis scientifique, parce que je me fonde sur la tradition, avec les cinquantaines de médecins et pharmaciens avec qui j'ai travaillé, sur les études scientifiques, et bien sûr, sur le fait que je sois biologiste. Mais mon rêve, ça serait de faire un lobbying, entre guillemets, et de plus, suivre cette réglementation européenne sur les allégations de santé, parce qu'en fait, ils nous verrouillent sur comment on communique autour des bénéfices santé des produits. Et là, on verrouille beaucoup trop, à mon sens, et on ne peut plus rien dire. Et ça, c'est dommage pour les marques. Bah ouais, ça sera un de mes rêves. Effectivement, si je peux détruire ça et que le fait que la France et même dans les autres pays, on désobéisse tous ensemble à cette réglementation sur les allégations de santé, ça sera un rêve, effectivement. Mais là, on est plutôt dans le rêve et non plus dans le projet. Mais pourquoi pas? J'allais dire pourquoi pas.
Ah, c'est la différence entre un rêve et un projet, c'est simplement d'y mettre une date. Donc, je te souhaite. Et je trouve que c'est bien d'avoir des choses qui paraissent folles ou trop grandes et qui paraissent nous dépasser. Souvent, finalement, on peut être surpris de voir à quel point non seulement on peut y arriver et même dépasser même ses attentes. Donc, je te souhaite de tout cœur d'avoir un impact aussi grand. Et je pense que ce que tu fais, bah, ça contribue et ça va déjà dans cette direction. Donc, déjà, bravo pour ça. Ça fait bientôt 1h15 qu'on discute et c'était plutôt dense comme discussion. Moi, je tenais déjà beaucoup à te remercier à nouveau pour déjà le travail que tu fais sur les réseaux, et puis aussi d'être venu sur ce podcast. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'accueillir et puis je suis persuadé que ça aura un joli impact sur les auditeurs, auditrices, parce que là, on va vraiment dans des choses très techniques et qui, si on les creuse avec notre médecin ou autre, ça peut vraiment apporter un mieux-être et changer des vies, je pense. Donc, bravo pour ça. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation, Julien.
Est-ce que tu veux avoir le mot de la fin?
Bah, le mot de la fin, ce qui est important, c'est surtout ici, on donne beaucoup de choses, mais c'est d'être attentif à notre environnement, à ce qu'on peut apporter au quotidien pour notre santé, et surtout, utiliser tous les outils que vous avez en main, parce que vous pouvez faire énormément de choses, malgré la croyance, se dire, les produits, ça coûte cher, etc. Il y a juste des basiques. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire comme la cohérence cardiaque, etc. Et surtout, vous êtes le mieux placé pour faire de la prévention santé. N'attendez pas d'avoir ce discours de la part d'autres pros, parce que parfois, il n'y a pas le temps de tout faire, de tout dire. Donc, informez-vous, continuez de vous informer. Si vous écoutez ce podcast, c'est qu'a priori, vous êtes sensible à ces informations. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le partager parce que je pense qu'effectivement, c'est très important. Vous êtes acteur de votre santé et il y a énormément de choses que vous pouvez faire de manière autonome.
Merci beaucoup.
Merci Julien et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin.
Merci beaucoup, puis à très bientôt.
À bientôt.
Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses pour améliorer votre santé, autant physique que psychique. Évidemment, je vous invite à retrouver Mathieu sur tous ses réseaux sociaux. Il est vraiment présent partout, donc c'est impossible de le rater. Mais pour trouver ces adresses, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo du podcast. Et puis, comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans les commentaires, vos réactions, à partager, à mettre des évaluations sur le podcast. Ça aide à propager ce genre d'infos et tous ces épisodes à une plus grande audience.